VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver en ce lundi 26 mars 2018. Un grand merci pour votre fidélité à VOA Afrique. En votre compagnie, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
Les titres que nous allons développer dans Le Monde aujourd'hui, Anne.
Au Niger, heurts entre forces de l'ordre et manifestants contre le budget 2018. Des responsables de la société civile interpellés.
On est enlevé par le gouvernement de Issoufou. Nous sommes les otages de Issoufou.
La marche n'aura pas lieu.
La marche n'aura lieu.
Également dans l'actualité, la RDC exclut tout financement extérieur des élections de décembre prochain.
En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma devant un tribunal pour corruption dès avril.
Les Égyptiens se rendent aux urnes à partir de ce lundi. Nouveau mandat assuré pour Abdel Fattah al-Sissi.
Et dans 8 minutes environ, vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sport.
Au Niger, des heurts ont eu lieu hier après-midi à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018. Trois des principales figures de la société civile ont notamment été arrêtées de la capitale nigérienne. Le compte-rendu de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Les trois principaux dirigeants du mouvement de contestation de la loi des finances, Moussa Tiangari, Nuhu Arzika et Ali Idrissa, ont été les principales cibles des agents de la police nationale. Le premier sera arrêté tôt le dimanche matin au siège de son association Alternative Espace Citoyen, quelques minutes avant l'heure indiquée pour le début de la manifestation. Ali Idrissa se présente au siège du MPCR pour attendre Nuhu Arzika pour aller ensemble au lieu du rassemblement. Il est pris sur place avec d'autres camarades. Direction la Compagnie nationale de sécurité.
On est enlevé par le gouvernement de Issoufou. Nous sommes les otages de Issoufou.
La marche n'aura pas lieu.
La marche n'aura pas lieu. Et le peuple vaincra. Il tient. Nous vaincrons. La marche aura lieu. Nous appelons le peuple à manifester.
Nuhu Arzika, lui, sera interpellé en début de soirée. Entre-temps, dans les quartiers environnant la place Toumo, lieu du rassemblement, quelques manifestants dressent des barricades et brûlent des pneus sur les trottoirs. La police intervient pour les disperser. Un des responsables de la société civile intervient en direct en début de soirée sur la chaîne privée de télévision La Bari appartenant à l'Idrissa pour demander aux populations de sortir pour le sit-in prévu se tenir la nuit à la place de la Concertation. Il est aussitôt arrêté par la police qui ordonne également la fermeture de la télévision. Abdul Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Pour leur part, les autorités de Niamey affirment avoir interdit la manifestation pour, disent-elles, des raisons évidentes de sécurité, invoquant des menaces sérieuses et pertinentes qui planent sur la capitale et de récentes attaques terroristes commises dans ses environs immédiates le 12 mars dernier.
Et justement, à propos d'attaques terroristes, au moins 5 civils nigériens ont été tués et plusieurs autres blessés en fin de semaine dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram dans le sud-est du Niger. Selon un résident de Toumour, une commune de la région de Diffa visée par l'attaque, les combattants de Boko Haram sont venus sur la place du marché vendredi en début de soirée. Ils ont tiré sur la foule et emporté des vivres. Le choc est immense. Cette deuxième attaque de Boko Haram après celle de janvier a sérieusement secoué et bouleverser les populations, a commenté hier la télévision nigérienne sans fournir de bilan. 2018 sera une année décisive dans la guerre contre Boko Haram, a pour sa part déclaré le gouverneur de la région de Diffa, Mahamadou Laouali Dandano, devant les habitants de Toumour. Ces attaques sont intervenues depuis plusieurs mois après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Diffa, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram.
Par ailleurs, au Nigeria, une centaine d'écolières libérées la semaine dernière par le groupe Boko Haram ont été ramenés hier à leur famille après avoir passé 3 jours auprès des autorités à Abuja. Au total, 105 des 111 étudiantes enlevées le 19 février dernier dans leur pensionnat à Dapchi dans le nord ont été déposées sur la route mercredi dernier par leurs ravisseurs selon le gouvernement, soulevant de nombreuses interrogations sur les dessous des négociations menées avec le groupe djihadiste.
En République démocratique du Congo, le gouvernement annonce avoir décidé de financer sur fonds propres les prochaines élections qui devront permettre d'élire un successeur au président Joseph Kabila. Kinshasa invite les bailleurs étrangers à orienter l'argent prévu pour les élections à d'autres secteurs. Des détails avec Nathalie Barge.
La RDC dispose des moyens pour financer seule les élections du 23 décembre, puisque nous enregistrons une embellie dans les finances de l'État, a déclaré Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Deux propositions ont été repoussées car il est exclu que les prochaines élections soient financées par l'extérieur, a-t-il précisé, ajoutant que le pays ne veut plus revivre les expériences du passé où ceux qui apportent des financements ont tendance à vouloir orienter l'issue des élections, a-t-il dit. Il a été décidé en réunion interinstitutionnelle de manière souveraine que la RDC va financer sur fonds propres les élections du 23 décembre 2018, a déclaré à la télévision d'État le ministre congolais de l'Intérieur Henri Mova. Mardi, le Conseil de sécurité doit décider du renouvellement du mandat de la MONUSCO qui devrait intégrer la question électorale en plus de celle de la protection de la population.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma pourrait comparaître devant la justice dès avril pour répondre à d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une vieille affaire de vente d'armes. Jean-Roger Billon.
La presse sud-africaine affirme que la première audience de ce procès devrait avoir lieu le 6 avril à Durban. Une date toutefois non confirmée par le porte-parole de l'unité en charge du dossier, soulignant que les convocations n'ont pas encore été finalisées. Jacob Zuma a été renvoyé le 16 mars devant un tribunal, accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe Thales en marge d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Il y a 10 jours, le procureur général Sean Abrahams a annoncé que l'ancien président serait bel et bien poursuivi dans cette affaire, ainsi que le groupe français qui a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navires militaires. Mis en cause dans une longue liste de scandales, Jacob Zuma a démissionné le mois dernier sous la pression de son parti, le Congrès national africain.
Au moins 4 personnes, dont 2 civils, ont été tuées hier après-midi par l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze dans le centre de Mogadiscio en Somalie. L'attentat a été revendiqué par les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont indiqué dans un communiqué avoir visé ce secteur de Mogadiscio qui abrite notamment le Parlement et le ministère de l'Intérieur.
L'incertitude règne sur la tenue ou non demain mardi du second tour de la présidentielle en Sierra Leone après l'arrêt des préparatifs du processus électoral à la suite d'une requête d'un jury du parti au pouvoir concernant des allégations de fraude. La Haute Cour a ordonné samedi à la commission électorale du pays de stopper ses travaux jusqu'à la décision de la Haute Cour attendue aujourd'hui à la veille de ce second tour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Égyptiens se rendent aux urnes aujourd'hui pour un scrutin présidentiel de 3 jours sans suspense. L'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sissi, est assuré de décrocher un deuxième mandat. Dans un pays confronté à des attaques djihadistes depuis 2013 et où le groupe État islamique a promis de s'en prendre à des lieux liés aux élections, les opérations de vote sont placées sous haute surveillance. L'armée a acheminé des véhicules blindés dans plusieurs points du Caire. La veille, 2 policiers ont été tués dans un attentat à Alexandrie. Quelques 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants pourront voter ce lundi, mardi et mercredi. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril.
La ville de Tal Rifat, à une 40 kilomètres au nord d'Alep, est la prochaine cible de l'opération militaire turque contre de milices kurdes dans le nord de la Syrie après la prise d'Afrin. C'est ce qu'a annoncé hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous retrouvons Nathalie Barge.
Le 18 mars, les forces turques avec l'aide de supplétifs syriens alliés ont pris l'enclave d'Afrin, y délogeant la milice kurde des unités de protection du peuple. Cette milice est classée terroriste par Ankara, mais constitue un allié précieux de la coalition internationale dirigée par les États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique. Dès le lendemain, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit prêt à élargir l'offensive contre cette milice à d'autres zones du nord de la Syrie. « Nous allons poursuivre ce processus jusqu'à la destruction totale de ce corridor constitué de Minbej, Aïn, Al-Arab, Tal Abyad, Ras al-Aïn et Kamishli dans le nord syrien », a averti M. Erdogan. Ankara n'a jamais caché son hostilité face à l'autonomie de facto acquise par les Kurdes de Syrie dans de vastes territoires proches de la frontière turque, à la faveur du conflit qui ravage la Syrie depuis 2011.
En Espagne, des milliers de militants indépendantistes catalans ont affronté la police hier en Catalogne après l'arrestation en Allemagne de l'ex-président Carles Puigdemont sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par Madrid. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
L'actualité économique en Afrique, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La Banque mondiale va débourser $1 milliard pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Ce fonds devrait être disponible d'ici à la fin de l'année fiscale en juin. Cette enveloppe devrait également être appuyée par une autre de $500 millions pour investir dans l'agriculture, l'éducation et l'énergie. Cette année, la Côte d'Ivoire pourrait enregistrer l'une des plus fortes croissances du continent, soit plus de 7%. Le Japon octroie $68 millions au Rwanda pour la réhabilitation de l'axe routier Ngoma-Ramiro. Ce financement est remboursable sur 40 années avec un taux d'intérêt annuel de 0,01% après une période de grâce de 10 ans. Il permettra d'augmenter la capacité de 53 km de route. Les travaux devraient s'achever en 2020. Ce projet permettra aussi de booster les échanges économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, notamment avec le Burundi et la RDC, reliés au pays par cet axe routier. Le Maroc veut investir près de $16 milliards dans les infrastructures. Cependant, Rabat engagera cette enveloppe s'il remporte le droit d'organiser la Coupe du Monde 2026. Le comité de candidature a préparé un dossier qui recense 14 stades. 5 stades déjà existants bénéficieront d'une rénovation. 30 000 chambres d'hôtel supplémentaires sont prévues dans les villes hôtes pour un investissement de plus de $3 milliards.
Et nous retrouvons Élisée Oumpatine pour le bulletin sportif. Bonjour Élisée.
Bonjour Jacques et bonjour à tous.
Football, match amical, le Cameroun s'impose devant le Koweït.
Oui, grâce à un but de Vincent Aboubakar et un doublé de Christian Bassogog, les Lions indomptables entraînés par Alessandre Bilinga se sont imposés en Koweït 3-1. Ce sera pratiquement le seul match amical que le Cameroun va livrer pour cette date FIFA. A noter que Fabrice Nga et Leandre Tawamba-Kana ont fêté leur première sélection.
D'autres matchs amicaux ont également eu lieu le week-end.
À Nouakchott, la Mauritanie a eu raison de la Guinée 2-0. Nouveau sélectionneur du Sili National, Paul Put a mal débuté son aventure sur le banc. De leur côté, les Comores affrontaient le Kenya à Marrakech, score final 2-2. En Afrique australe, la Zambie, qui a organisé un tournoi à 4, s'est inclinée 2-0 en finale devant l'Afrique du Sud. En France, Madagascar a été dominé 1-0 par le Kosovo. Et puis, la Côte d'Ivoire et le Togo se sont neutralisés 2-2.
À noter que cette trêve internationale intervient dans un moment particulier pour le football ivoirien.
Oui, la non-qualification pour la Coupe du Monde a laissé des traces. Et les différents acteurs de cette crise se retrouveront demain à Zurich sur invitation de la FIFA. Cette dernière souhaite discuter des mesures à prendre pour surmonter la situation actuelle. À la suite de la visite de son émissaire les 11 et 12 janvier dernier à Abidjan, l'instance première du football mondial a invité les différentes parties de cette crise à une table ronde à Zurich. Des clubs et plusieurs regroupements d'intérêts ont réclamé le 29 décembre dernier une assemblée générale extraordinaire pour demander le départ du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo.
Rencontre amicales à venir également pour les mondialistes africains.
Effectivement, Jacques, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie vont essayer d'enchaîner respectivement contre la Serbie, l'Ouzbékistan et le Costa Rica. Le Sénégal, après son nul décevant face à l'Ouzbékistan, est très attendu contre la Bosnie. L'Égypte, battue par le Portugal avec une bonne prestation, veut se racheter devant la Grèce. Retenez que ce soir à Lisbonne, le Portugal sera aux prises avec les Pays-Bas.
La suite du programme des matchs amicaux de ce mardi.
On aura de belles oppositions comme Allemagne-Brésil ou encore Espagne-Argentine. La France, après sa défaite contre la Colombie, tentera de se reprendre face à la Russie, tout comme l'Italie qui doit réagir devant l'Angleterre. Pour le reste, le Burkina Faso jouera le Kosovo et la Côte d'Ivoire va en découdre avec la Moldavie. La République démocratique du Congo ira en Tanzanie. L'Ouganda accueille le Malawi. On aura également l'opposition Namibie-Lesotho. Enfin, à Nairobi, le Kenya jouera la Centrafrique. La NBA, pour finir, avec vous, Jacques, les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, les Cavaliers de Cleveland ont signé un 5e gain de suite en battant les Nets de Brooklyn, 121-114. Ailleurs, San Antonio Spurs, 103. Milwaukee Bucks, 106. Miami Heat, 107. Indiana Pacers, 113. LA Clippers, 117. Toronto Raptors, 106. New York Knicks, 101, Washington Wizards 97, Boston Celtics 104, Sacramento Kings 93.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Cap d'emblée sur le Tchad, où un forum national sur les réformes institutionnelles tire à sa fin après une semaine de travaux. Sa clôture est prévue pour demain mardi. La réunion a été boycottée par l'opposition et une partie de la société civile qui avait été invitée à participer à sa préparation. Ce forum devrait aboutir à un allongement de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable une fois à la création d'un Sénat ou encore à la refonte des régions. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a déjà annoncé la mise en place d'une quatrième république. N'Djamena, le point avec notre correspondant André Kodmadjingar.
Ce forum, qui au départ a un caractère national et inclusif selon les organisateurs, se résume progressivement à un congrès du parti au pouvoir, car au deuxième jour, l'UMPS impose un président pour diriger les débats. La société civile indépendante bourdonne et quitte la salle parce que selon elle, le choix n'est pas consensuel. Au quatrième jour de débat, l'UMPS et ses courtisans optent pour un régime présidentiel avec la création du poste de vice-présidence. Quelques petits partis politiques de l'opposition présents dans la salle pilonnent ses propos et claquent la porte alors qu'ils savaient qu'en partie participant à ce forum, il crédibilisait le régime. Réaction du secrétaire général de l'Union nationale pour la démocratie et le socialisme, Garial Modeste.
On donne des paroles par affinité. Les gens qui étaient préparés, qui se prononcent sur le sujet, qui est aussi sensible. Donc ça, c'est pour aller à l'état unitaire et je n'apprécie pas ça. Il a fallu que je joue le rôle d'un voyou pour qu'on nous donne deux interventions. Dommage.
Vu la configuration des participants et le niveau des débats, l'enseignant-chercheur à l'École nationale d'administration, Dr Sitak Yumbatna Beni, invite comme personne ressource, gèle également sa participation. Il affirme avoir été roulé dans la farine.
On a un document qui est devant nous. On ne travaille pas sur le document et on travaille à côté. Vous avez des gens qui sont fabriqués, n'est-ce pas, dans les coulisses. Ils viennent injecter une idée et on choisit les gens qui doivent applaudir. Et puis c'est terminé. On a bouclé, on s'en va, quoi. C'est de la comédie. On perd le temps et donc je pense que j'ai d'autres choses à faire que de venir m'asseoir là pour applaudir les choses.
Le président du présidium, Dr Noureddine Deloua Kassiré Koumakoué, dont sa désignation ne fait pas l'unanimité, respecte le choix de ceux qui ont claqué la porte.
Celui qui veut rester, il reste. Celui qui veut partir, il part. On a invité tout le monde pour participer à l'action. Nous ne sommes pas venus pour l'argent. Le fédéralisme est rejeté. Personne n'en fait cas. C'est la décentralisation administrative.
Docteur Maoundounoudji Gilbert, politologue et constitutionnaliste qui suit de près le débat, parle d'une escroquerie politico-intellectuelle.
Le choix qui a été fait par les participants, c'est un régime présidentialiste qui nous ramène à la constitution de 90 de Hissène Habré qui donnait tout le pouvoir à un homme et les institutions sont là simplement pour cautionner. Donc, je ne pense pas que ça soit dans la volonté de Déby de mourir au pouvoir, puisque lui-même, il a dit, il n'a pas eu de jeunesse. Donc, au moins, qu'on crée les conditions pour qu'il ait de retraite.
La plateforme des organisations professionnelles des médias n'a pas été associée au débat. Toutefois, elle prend acte de son exclusion à ce forum et se réserve le droit de se prononcer sur les conclusions qui, selon le président Déby, pourraient aboutir à la naissance de la 4e République du Tchad. André Kodmadjingar Ndjamena, VOA Afrique.
Direction Cameroun pour revenir en profondeur sur l'emprisonnement de trois personnalités, dont un ex-ministre pour malversation financière. Ils sont écroués à Yaoundé depuis le 21 mars dernier. De nouvelles arrestations ne sont pas à écarter, d'autant que d'autres commis de l'État, gestionnaires des deniers publics, ont été convoqués par le tribunal criminel spécial ou interdits de quitter le territoire camerounais. L'opinion publique est toutefois partagée quant à cette opération menée dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements des fonds de l'État, comme nous allons l'entendre dans ce reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Junta.
L'indice n'a pas été trompeur. L'interdiction par les services de sécurité de sortie du territoire à certains hauts responsables du pays vient de lancer une nouvelle phase de la lutte contre le détournement de fonds publics au Cameroun. L'ancien directeur général de la Camwater Utilities, William Solo, l'ex-directeur de l'université de Douala, Bruno Bekoloebe, un ancien secrétaire d'État aux travaux publics, ont été les premiers à être écroués. Le chronogramme de ces arrestations est loin d'être fortuit en cette année électorale au Cameroun. Joya Moussa est enseignant et politologue à l'université de Yaoundé 1.
Le président Biya se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'une thématique véritable en termes de bilan pour la campagne. Alors, on peut s'accrocher sur cette diversion de la population à travers la relance de cette opération épervier. Et justement, je crois qu'elle va s'intensifier davantage pour pouvoir servir de casse-sexe à cette absence de bilan satisfaisant de ce temps passé.
Les trois fonctionnaires sont soupçonnés des malversations financières et erreurs de gestion de plus de 50 milliards de francs CFA commises dans leurs fonctions respectives, ce qui est loin de laisser indifférent Salomon, un jeune employé du secteur privé à Yaoundé.
Dans un pays, lorsque les gens qui nous dirigent confondent un peu l'argent de l'État avec leur propre argent, il est de bon ton que ces personnes-là puissent répondre face à leur mauvaise gestion. Je crois que nous sommes dans un pays de droit.
Dans la classe politique camerounaise, la relance de l'opération dite épervier au Cameroun n'enthousiasme pas tout le monde. Alice Sadio, présidente de l'Alliance des forces progressistes.
Tant que nous copierons sous ce modèle ultra-centralisé, où tous les pouvoirs sont à la merci du pouvoir exécutif, le fléau que nous avons nommé corruption et détournement de deniers publics ne sera jamais résorbé. Cette opération épervier est ni plus ni moins que la plus grosse escroquerie du siècle.
Contactés, les avocats des premières personnalités écrouées se réservent encore de s'exprimer à la presse. En Berne, depuis 4 ans, la campagne d'arrestation des hauts gestionnaires de l'État indélicat en cours est la 5e du genre, sous l'ère Paul Biya, Yaoundé, Emmanuel Julta, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la situation humanitaire est alarmante en Ituri, dans l'est du pays. D'après les autorités locales, une centaine de personnes ont été tuées, plus de 2000 abris incendiés depuis le début des violences en février. Certains habitants ont pu fuir les massacres en traversant le lac Albert pour aller se réfugier en Ouganda. Plus de 65 000 autres personnes se sont dirigées vers Bunia, où 3 sites ont été érigés pour les accueillir. Mais beaucoup déplorent des conditions de vie difficiles. Le correspondant de VOA Afrique à Goma, Charlie Kasereka, est allé à la rencontre de s'est déplacé à Bunia, d'où il nous a envoyé ce reportage.
Nous sommes dans l'un des 3 sites qui accueillent ces déplacés venus du territoire de Djougou, environ 80 km de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri. Ici vivent plus de 10 000 personnes, dont des rescapés. Parmi elles, Alphonsine Njola, plus de 50 ans, blessée à la main. Elle a échappé de peu à la mort lorsque son village a été attaqué.
Les plaies sur mes bras, c'est des coupures des machettes de l'Endou, alors que nous étions déjà cachés dans la forêt où ils nous pourchassaient. J'étais cultivatrice. Ce sera difficile pour moi de cultiver encore, puisque tous les os de mes bras sont cassés et que je n'ai plus d'habitation. Ici, je dors sous cette bâche plastique.
Honorine Dadio vit seule ici au camp. Pendant la fuite, elle s'est séparée de ses frères alors que ses parents étaient déjà morts il y a plus de 10 ans maintenant, lors du précédent conflit interethnique entre Hema et l'Endou.
Tous les membres de ma famille ont été tués, certains d'abord et d'autres récemment. Je vis seule ici au camp grâce à de petites aides.
Ces femmes et jeunes filles méritent un intérêt particulier des personnes de bonne volonté. C'est le plaidoyer que mène Rita Bougamboa, évangéliste ici au camp.
Nos amis, les humanitaires, même les gens de bonne volonté qui nous aident avec les kits des mamans, les kits d'hygiène. Pendant leur période rouge, comme il y a beaucoup de personnes, il y a des enfants, il y a des hommes dans les toilettes, et là, il fallait qu'ils aillent leur kit privé là, avec ça il va se débrouiller.
Dans ces sites, faute d'une ration suffisante pour tous les ménages, une cuisine commune pour les 10 000 personnes est organisée. L'ONG Médecins Sans Frontières apporte les premiers soins aux malades et aux blessés. Moïse Oubimo, responsable du camp, parle de l'urgence et la nécessité du retour pour tous ces déplacés.
Nous avons l'urgence pour les non-vivres et les vivres. Dans les vivres, nous avons besoin de la nourriture, des bâches. Il y a ceux qui étaient déjà servis et ceux qui viennent nouvellement n'étaient pas servis. Et aussi, ils en ont besoin. Le dernier mot est seulement que la paix retourne dans le territoire de Ndjougou afin que nos déplacés puissent se regagner. Et eux-mêmes aussi réitèrent leurs vœux et leurs besoins de rentrer chez eux.
Ces familles viennent du territoire situé entre 20 et 80 km de la ville de Bounia, chef-lieu de la province d'Ituri. Et les villages les plus touchés sont Sala, Lita, Logno, dans les territoires de Djougou. La sécurité dans ces zones reste volatile avec un ennemi non encore identifié par les autorités locales. La plupart des personnes qui vivent ici sont des cultivateurs. Elles demandent juste la paix dans leur région d'origine pour y retourner et cultiver leurs champs. Charlie Kassareka depuis la ville de Bounia en Ituri pour VOA Afrique.
Au Bénin, les syndicats refusent de retirer leur mot d'ordre de grève après des semaines de débrayage. Les dernières négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti à une sortie de crise. La principale pomme de discorde demeure la retenue opérée par le gouvernement sur les salaires de février pour fait de grève. De Cotonou, les explications de notre correspondante Ginette Fleur-Adande.
La situation sociale au Bénin se dégrade chaque jour un peu plus. Centrales syndicales et gouvernement tirent chacun le drap de leur côté et à la fin, c'est l'administration publique qui est plongée dans une grande déconfiture. Au cœur du durcissement de la crise, les retenues sur salaire pour faire de grève. Les travailleurs sont plus que mécontents.
Il y a eu braquage des salaires. Et ça veut dire quoi? C'est à dessein que c'est fait.
On a vu qu'à la fin du mois de février, même des salaires de décembre sont restés impayés. Janvier et février ne sont pas encore payés jusqu'à présent.
Ils sont épaulés dans leur élan par les centrales syndicales. Pour Noël Chadaré de la Côte d'Ivoire, les négociations reprendront quand le gouvernement aura retrouvé la raison.
Nous n'allons pas venir nous asseoir avec des gens qui posent des actes de guerre alors qu'ils donnent l'impression au monde entier, aux Béninois, qu'ils veulent la paix. Nous ne sommes pas des pantins désarticulés que les policiers vont manipuler.
Mauvaise nouvelle, le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Le président l'a réaffirmé il y a quelques jours lors d'une audience avec le président du Conseil économique et social venu plaider pour une sortie de crise. Pour Patrice Talon, chaque travailleur doit être responsable des actes qu'il pose.
Choisir d'aller en grève, c'est un acte de dignité. Je veux que mes concitoyens soient des hommes dignes, qui méritent le respect dans la discussion, la négociation, qui posent des actes et veuillent bien qu'on mesure la gravité de leur acte pour que l'on comprenne quelle est la cause qu'ils défendent.
Les populations béninoises restent les vraies victimes de cette situation. Chez les élèves, c'est plutôt une année blanche qui est redoutée.
Nous disons au président de la République d'avoir pitié en nous. Nous lui demandons pardon de payer aux professeurs pour qu'ils puissent nous faire coup.
On veut vraiment que l'État pense à nous, élèves, nous, ses enfants, pour que l'année soit sauvée parce que nous ne voulons pas d'une année blanche.
Au sein de la population, les avis sont partagés. Certains sont convaincus que le gouvernement a péché en jetant de l'huile sur le feu en pleine négociation.
Mais quand même, il y a un cadre légal prévu par la loi, le dialogue social.
On ne peut débarquer que lorsque la grève ne se justifie pas.
En pleine négociation. Un gouvernement ne peut jamais faire ce genre de choses.
Mais pour d'autres, les enseignants sont malhonnêtes de réclamer de l'argent pour un travail non exécuté.
Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. S'ils continuent encore la grève, useront nous, parents d'élèves, au dos. Hein.
Certains prétendent que l'état désastreux des caisses de l'État sera à la base de l'entêtement du gouvernement à ne pas retrocéder les montants retenus sur salaire. Mais pour le ministre Joseph Diogbenou, ce n'est qu'une question de bon sens et de justice.
Quand nous nous regardons nous-mêmes, nous pouvons faire le point de l'offrande que nous faisons à notre communauté, à notre nation, où travailler et lui permettre de remplir ses missions essentielles, service public. Nous allons réaliser que ça dépasse à peine 150 jours. Et c'est sur ces 150 jours que nous faisons une grève illimitée et dont nous sollicitons la contrepartie qui est le salaire. Je voudrais que chacun prenne conscience de cela.
L'absence de dialogue actuellement pour conduire au dégel de la crise sociale semble n'inquiéter personne. Même la société civile, pour le moment, observe la loi du silence. Pourtant, il faudra des hommes et des femmes de bonne foi pour conduire les deux parties à fumer le calumet de la paix pour le bonheur de l'administration béninoise. De Cotonou, Ginette Fleur-Adande pour VOA Afrique.
Dans la
prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du NOMA.
Il s'agit d'une maladie peu connue qui affecte beaucoup plus les enfants. Il se développe dans la bouche des victimes et leur ronge le visage.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Kantsem Tarsissus, médecin spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillofaciale au Burkina Faso. Il nous parlera des facteurs qui favorisent la maladie et des moyens de prévention.
Nous parlerons aussi de la lutte contre la maladie en prenant l'exemple du Niger. Et pour cela, nous écouterons le témoignage du docteur Ousmane Amadi Issa, chirurgien, coordonnateur médical de l'association Ilsaction NOMA. Nous écouterons aussi Valérie Elsig, responsable du programme NOMA au sein de la fondation Les Sentinelles.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. Anne qui était également avec nous dans la partie actualité. C'était Daryl Smith à la technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine sur VOA Afrique.